Vous écoutez France Culture.
À voix nue, Philippe Petit s'entretient avec Pierre Legendre. Aujourd'hui, nous évoquons la fabrique de l'homme occidental. Pierre Legendre, hier nous avons commencé à parler de la déroute de la jeunesse, voire de la jeunesse en difficulté. Dans la fabrique de l'homme occidental, il y a une phrase forte qui est la suivante. Enfants meurtriers, adolescents statufiés en déchets sociaux, jeunesse bafouée dans son droit de recevoir la limite, votre solitude nue témoigne des sacrifices humains ultramodernes. Alors on a commencé un peu à discuter de ce que d'aucuns vous reprochent, c'est-à-dire de passer pour un défenseur absolu de l'ordre symbolique qui serait le seul rempart contre le spectre, non pas de la décadence, mais justement de ce sacrifice de la jeunesse. Or, on a l'impression qu'en lisant vos détracteurs, aussi bien que qu'en vous lisant, et c'est peut-être de ça que j'aimerais qu'on essaye de s'échapper, comme s'il y avait d'un côté finalement le conservatisme avec tous ces archaïsmes, et de l'autre, disons, la société ouverte, l'open society, qui effectivement autoriserait non seulement des adaptations, mais rendrait possible toutes les adaptations possibles. Or, là, il semble qu'il y ait un petit peu, disons, un piège dans la manière de présenter la chose, que ce soit en matière de droit familial ou bien que ce soit tout simplement en matière d'éducation des enfants ou des jeunes adultes. Pierre Legendre.
Je vais d'abord vous dire, les commentaires sont libres. De ce que j'écris, on peut faire tous les commentaires qu'on veut. Ça n'est pas mon affaire, ça. Ce n'est pas mon affaire. Je ne peux pas empêcher ceux qui résonnent comme ils résonnent à propos de mes écrits. Je ne peux pas les empêcher de penser autre chose que ce qu'ils pensent. Je n'ai aucun titre à leur faire la leçon. Ils iront là où ils croient devoir aller. C'est très bien, ça m'indiffère. Ça m'indiffère. Je constate le sacrifice humain de masse. J'ai eu affaire, dans ce laboratoire que j'avais constitué, à des problèmes cruciaux du genre des dossiers de jeunes meurtriers qui n'ont pas accès, je ne dirais pas au remords, mais à la culpabilité. Vous pouvez toujours les condamner. C'est comme l'eau sur la peau d'un canard, ça glisse. Bon, alors, dans les centres sociaux, éducateurs, etc., un certain nombre de centres que j'ai connus prononçaient le mot d'autorité, ils sont révulsés d'entendre ce mot, rien que ce mot. Vous allez avoir prochainement des colloques sur l'autorité. Maintenant que les vents tournent, le troupeau va changer de direction. Vous savez, je suis d'un pays d'élevage et je sais ce que c'est que le problème de changer les vaches de champ quand il faut traverser la route. Bon, pardonnez-moi mes excès de langage, mais c'est un fait. On refuse aux jeunes le minimum vital, laissons le mot symbolique, qui ne veut plus rien dire à force d'avoir été mis à toutes les sauces.
Quel mot vous voulez qu'on prenne ?
Le mot, on peut user de tous les mots simples. Les mots simples, c'est-à-dire la construction de l'humain, la construction des enfants, la construction des adolescents, la construction humaine, ce qui répond à une logique. Il y a une logique. Alors évidemment, on peut promouvoir la société anormative. Anormative. Il y a eu pendant des décennies, dans la presse huppée, ne pas être normatif. Ne pas être normatif. Alors ça commence par la déstructuration à l'école. L'école de la République, je dis parfois, mais de quelle République parlez-vous ? Mais il n'y a plus de République. Quelle République ? L'école, à l'école, le simple geste d'écrire, les séances d'écriture. Il n'y a rien de plus séparateur d'avec soi-même, de plus constructif de la personne que les séances d'écriture. J'en prends un exemple que vous verrez précisément dans le film La fabrique de l'homme occidental. Les séances d'enseignement à l'école de la danse de Paris pour les jeunes enfants qui suivent l'enseignement et qui sont aussi des enfants danseurs. On leur apprend à écrire et ils découvrent quelle leçon, une leçon mais d'anthropologie fondamentale. Ils découvrent la danse dans l'écriture. Dans l'écriture, lettre, mot à mot, les pleins et les déliés, la ponctuation, ils apprennent la danse en écrivant. Bon, que voulez-vous que j'y fasse ? La décomposition, quand il est question de 68, moi je n'ai pas de position, pour la raison que ce n'était pas le problème des jeunes, c'était le problème des adultes, de ceux qui ont été incapables, sortant de 50 ans de tuerie, d'enseigner un monde qui ne soit pas un monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le monde à l'envers ? C'est le monde des camps. Dans les camps, qu'est-ce qui se passe dans les camps ? Vous savez, les récits, les mille récits. Dans les camps, le SS, il sort son revolver parce que, eh bien, ta tête ne me revient pas. Ou bien, il te frappe. Voilà, c'est ça, l'absence de limite. Ça s'apprend dans les camps.
Le jour en 1968, puisque vous venez de parler de ces événements, vous enseignez à Nanterre.
J'ai enseigné à Nanterre à partir de la rentrée de 1968. J'ai vu les bons enfants bourgeois du 16e arrondissement, parce qu'à cette époque, il y avait une sorte de compétence territoriale de cette université, qui est à majorité des enfants des meilleurs quartiers. Eh bien, pardonnez-moi, à la faculté de droit, j'ai vu ça. Dans les toilettes toutes neuves, il chiait par terre. Et j'ai dit à quelques-uns, voilà qui est un geste démocratique qui va nettoyer cela. Et bien évidemment, les pauvres esclaves des HLM des alentours, en l'occurrence à l'époque, les pauvres portugaises qui cherchaient à nourrir leur famille. Bon, voilà. Moi, je fais passer mes examens à Lille sous la protection de la gendarmerie. Qui sont les victimes ? Ce sont les victimes, ce ne sont pas ceux qui toujours peuvent se refaire une santé dans la vie, qui ont des parents, qui ont des relations, ou alors qui vont se faire les dents en président l'UNEF, par exemple. Ah, ça, on va voir se multiplier les fils à papa-maman, là, dans les partis politiques, à leur agiter le flacon, de menacer les gouvernements de manifestations monstres pour faire reculer le gouvernement. Que des jeunes, qui sont en formation, prétendent parler au nom de tous les jeunes, de tous les étudiants, eh bien, je vais vous dire, ça me choque. Ça me choque, parce que pour moi, c'est l'envers de la démocratie, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment marcher sur la tête.
Pierre Legendre, lorsque vous faites l'inventaire de 1968, est-ce que d'abord il n'y a rien de ces événements que vous pourriez sauver a posteriori, sachant que, à la même époque où vous étiez à l'université de Nanterre, officier également des gens comme Jean Baudrillard, que je crois que vous estimez, enfin surtout peut-être le Jean Baudrillard qui avait écrit sur le 11 septembre dans Le Monde. Mais est-ce que, bon, apparemment, bon, ce n'est pas un regard a posteriori, mais est-ce que vous diriez que justement cette casse, cette perte des repères qui est là, comme ça, mise en scène dans nos sociétés libérales avancées, est-ce qu'elle provient d'abord uniquement de 68, ou est-ce qu'elle n'a pas des antécédents plus récents ou plus anciens? Et est-ce que tous ceux qui ont essayé de réfléchir sur les normes ou la normativité, je ne pense pas à quelqu'un comme Michel Foucault que vous avez plusieurs fois critiqué, souvent d'ailleurs à juste titre dans certains de vos écrits, mais je pense par exemple à quelqu'un comme Georges Canguilhem qui réfléchissait aussi sur les normes vitales et qui pouvait dire des phrases, disons, un peu comme celle-ci, à savoir que tout individu, tout sujet vivant est aussi créateur de normativité en tant qu'il est confronté justement à un milieu donné. Or, pour clarifier justement cette notion de normativité, j'aimerais que vous puissiez nous dire en quoi, chez vous, elle ne se rapporte pas du tout à la liberté, disons, individuelle telle qu'on l'entend habituellement, mais plutôt, disons, à un fait de structure, c'est-à-dire la normativité est quelque chose qui obéit à l'ordre de la structure. Est-ce qu'on peut approfondir ce point pour essayer d'aborder la question de l'Occident?
Oui, absolument, 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 vous avez tout à fait raison. Du reste, je vais vous dire, moi, pour 68, je n'ai rien contre 68, dans le sens que la société française était devenue respirable. L'université était irrespirable, mais le retournement s'est opéré dans des conditions telles que, eh bien, on a mis en œuvre l'absurdité. L'absurdité. Encore une fois, vous savez, quand je voyais un certain nombre de mes collègues dans des séances de confession publique passer aux aveux, je trouvais ça dérisoire, lamentable, vraiment triste leçon à donner aux plus jeunes. Bon, cela dit, la façon dont les choses ont été reprises, ça a été vraiment, vraiment plus que critiquable. J'avais fait un petit article pour un commentaire du discours d'Edgar Faure, qui avait été aussi certainement agencé par son conseiller, là, Michel Alliot, un autre historien du droit. J'avais lu à la loupe ce texte et j'en avais fait la critique. Je voulais le publier dans une des revues UP, l'Esprit, pour ne pas le nommer. Et évidemment, ils ont refusé, pour la deuxième fois du reste, ils avaient refusé de moi un texte sur les comportements de l'ONU en Afrique. Et cette fois, ils m'ont refusé aussi ce texte. Bon, je passe, parce que c'est la censure française typique. Et vous avez toujours en France un discours monumental qui s'installe, contre lequel il est inutile d'apporter des commentaires. Bon, donc, vous savez, la question de normative, c'est en effet une question de logique, de structure. Quand on met en œuvre, il est interdit d'interdire, c'est une manière d'instituer normative. C'est aussi normatif que son contraire. Seulement, ça produit des effets de déroute. Ça produit des effets de déroute. Alors, moi, vous savez, 68, tout ça, c'est autant n'emporte le vent, ce sont des... Vous savez, en France, ce pays si conservateur, si bien conservé, du reste, on conserve, je dis, la pensée à la cave, alors comme des bouteilles de vin. Eh bien, je crois que les crus de 68 sont maintenant éventés et ça a un goût un peu âcre. Je pense que bientôt, ça ne va plus saouler personne. Bon, mais ça, je peux me tromper lourdement. Mais il y a des pronostics qu'on peut faire. Il y a des pronostics selon la logique. Vous savez, comment j'ai compris 68? Eh bien, je vais vous dire, en lisant la Divine Comédie. Il y a, dans la Divine Comédie, des métaphores, en plus, Dante est un théoricien du pouvoir. Il a écrit autre chose que la Divine Comédie. Bon, il a écrit des choses très politiques. Eh bien, s'il y a dans la Divine Comédie, dans l'enfer, une scène sur les magiciens, quel est le malheur qui frappe dans l'enfer les magiciens? Eh bien, c'est d'avoir la tête à l'envers et de marcher devant. Et il y a cette formule qui caractérise bien la situation d'après toutes les décennies que nous venons de vivre. Comment dit-il, notre image tordue à ce point. Voilà. Ben, les magiciens, qui sont les magiciens? Ce sont ceux qui prêchent, j'allais dire, cette espèce de surhomme, n'est-ce pas, de l'affranchi. Vous savez, c'est la pente, je crois, et ça va très loin, tout ça. 68, c'est une des bulles au-dessus de la mer, ça. Mais le fond des choses est ailleurs. Et il y a quelqu'un qui me semble avoir bien compris la pente, c'est Houellebecq. J'apprécie beaucoup ce qu'écrit Houellebecq, il a compris. Ce qu'il fait de son désespoir, c'est une autre question qui le concerne. Mais le fond des choses, il le voit. Nous apprendrons du nouveau, parce que les Occidentaux ne pourront plus bientôt prétendre faire la leçon au monde entier. Voilà ce qui est à l'œuvre. Voilà ce qui est à l'œuvre. Alors 68, ça, ce sont des banalités.
Oui, Pierre Legendre, oui, les crues de 68 sont amères et ne sont plus tellement d'actualité.
Les effets sont là, ils sont à l'œuvre, les effets sur le long terme, qui sont pour moi les effets dans les sociétés post-hitlériennes. Pourquoi? Parce que ce que les Occidentaux ont dans la tête, c'est que le pouvoir est tyrannique, ils ont vécu avec des tyrans. Donc, quand vous avez dans la tête que le pouvoir est un tyran, vous ne pouvez que le refuser. Et donc, ça, c'est les effets de se délivrer du tyran. Et donc, chaque fois qu'il est question de pouvoir, comme il ne peut être que tyrannique, il n'en faut pas. Il ne faut pas de pouvoir sous aucune forme. Or, moi, je m'occupe à plus d'un niveau de la mécanique de ce qu'on appelle le pouvoir. Du reste, les Occidentaux, et il est question de ça dans le film, puisque j'ai fait une grande séquence à la bibliothèque vaticane. Dans le jargon latin, il distinguait auctoritas et potestas, c'est-à-dire l'auctoritas, c'est, on peut traduire par l'autorité, mais c'est la place du garant. Ensuite, il y a potestas, l'exercice du pouvoir. Si on traduisait ces termes en termes de gestion moderne ou ultramoderne, on dirait que c'est l'équivalent du président-directeur, l'auctoritas, c'est le président-directeur général d'une firme, et potestas, c'est le directeur général. Voyez-vous, il y a des niveaux de pouvoir. Ça, il y a une logique là-dedans. En fait, l'auctoritas, c'est la place de l'emblème. C'est la place du garant, au-delà duquel c'est le vide. Mais pour ça, ça suppose, alors on entre dans les questions de la structure, le versant de la structure que dans le langage occidental, hérité des siècles, et notamment du juridisme des Romains, on appelle religion.
Est-ce qu'on peut reprendre, puisque nous parlons là de la fabrique de l'homme occidental, qui est à la fois un texte, d'ailleurs très, très poétique, un scénario, mais aussi un film qui était sorti en 1996 et qui ressort cette année en DVD. Est-ce qu'on peut reprendre l'exemple de la danse, de l'écriture de la danse, sachant que, bon, la danse, vous avez consacré un livre qui s'appelle « La passion d'être un hôte », étude pour la danse, qui était reparu en l'an 2000, je crois, aux éditions du Seuil, oui, en l'an 2000. Et cette question du garant que vous venez d'évoquer, Pierre Legendre, elle a un rapport avec autre chose qui est centrale chez vous, le théâtre. Vous dites dans ce livre sur la danse, c'est pour ça que j'y renvoie également, parallèlement à cette scène de la fabrique de l'homme occidental, théâtralement, nous sommes morts. Qu'est-ce que ça veut dire, théâtralement, nous sommes morts?
Ça veut dire d'abord que nous vivons dans l'illusion scientiste. dans un en proie à la maladie de l'explication. Bon, une chose que j'ai retrouvée en Afrique où j'étais si qui m'était si familier, c'est que si on évacue la dimension de l'énigme, de ce qu'on ne comprend pas, eh bien, il n'y a pas de vie possible. Ou il y a une vie un peu abrutie, consommante, bon, etc. Bon. En fait, nos manières de vivre, c'est un darwinisme social qui ne digérera jamais son nom et qui fait semblant d'être démocratique. Bon. Mais la théâtralisation, elle est au cœur du monde. Ce que j'avais vécu, moi, puisque je me suis laissé aller à vous parler de mon enfance, ce que j'avais vécu, moi, dans mon enfance, dans la Normandie du Cotentin, une Normandie très catholique, très ritualiste, c'était des gens qui étaient en proie à des rituels dont ils n'avaient absolument pas le sens. Ils pouvaient chanter des hymnes, du reste très poétiques, en latin, une langue, l'équivalent d'une langue secrète. Bon. Quand je suis allé en Afrique, là j'ai fait mes classes sur la danse. La danse, c'est une grande question pour moi. Et j'ai été encouragé à poursuivre après cet ouvrage par la seule personne en France qui encourageait mon travail, une fois fait, ce livre que vous citez sur la danse, c'était le roi Gourand. Le roi Gourand, je crois qu'il n'a pas de successeur, le roi Gourand. Bon. Mais voyez-vous, en Afrique, ce monde m'était comme familier, alors que je n'avais rien à voir avec cette culture-là, n'est-ce pas ? Avec cette culture-là. Et même pour entrer dans la culture nègre classique, ou ce qui en restait, qui était très vivant, on a un moment de recul. Un moment de recul. Ça, je dois dire, un de mes enfants a très bien exprimé la chose, le contact avec ce qui est autre et radicalement autre. Un jour, un de mes enfants dit à table, il avait 4-5 ans, à Mpateba, il lui dit « Pourquoi t'es noir ?» Et Mpateba répond « Parce que je suis resté trop longtemps au four. » Bon, c'était une réponse pour un enfant parfaite, parce que voilà, c'est le mystère de l'altérité. Je me méfie beaucoup, beaucoup de l'interculturalisme, du méli-mélo, de la fin des identités, du grand discours, etc., de la mixture, là. Parce que ça veut dire que ceux qui tiennent ce discours n'ont pas plus le sens du respect et de l'existence de l'autre que les pires colons que j'ai connus. Bon, donc, voyez-vous, cette affaire des rituels, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. De même, le premier des rituels dans nos sociétés, ce serait la calligraphie. Ce serait d'apprendre à écrire bon sang. Parce que je sais, pour les avoir combattus, que des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale, lequel ministère est à mes yeux un État dans l'État, qui aujourd'hui gouverne plus d'un million de fonctionnaires, c'est chose aberrante. Je n'irai pas plus loin. Mais tout de même, priver les enfants de cette entrée dans la vie, qu'on peut appeler alors symbolique, puisqu'il ne s'agit pas de la chose matérielle, ça, c'est à mes yeux criminel.
Un mot quand même, Pierre Legendre, reconnaître le creuset mythologique et religieux qui est toujours actif dans nos idéaux conquérants aujourd'hui, c'est reconnaître la part essentielle du romano-christianisme dans la fabrication de l'Occident. Et Dieu sait si vous insistez sur la différence entre raison juive et raison chrétienne dans vos ouvrages, Dieu sait justement si vous ne mélangez pas judaïsme et christianisme, judaïsme et romano-christianisme. Alors, nouer le corps et la parole, ça appartient à la fonction dogmatique des sociétés. Il est évident que entre juifs et chrétiens, ce n'est pas le même nouage.
Voilà, s'il y a des choses de fond qui ont constitué l'Occident. Je suis étonné de ce qu'on dit quand on... La preuve que nous sommes bien dans une vie sédimentaire et non pas dans une vie linéaire, c'est au-delà de ce que la psychanalyse apprend sur le sujet. Dans les sociétés, c'est la même chose. Il n'y a pas le judéo-christianisme qui vient comme ça pour avoir l'air d'avoir une tradition, puisque les traditions, il paraît que maintenant, c'est vraiment le contraire de la vie. Il y a le judéo-gréco, parce qu'on oublie la dimension grecque, ça c'est encore une autre affaire, que l'inexistence de l'Orient byzantin pour les Occidentaux, en particulier européens, en particulier français. Bon, romano, parce que c'est la marque du droit romain, christiano-laïque. Tout ça se fait un tout. Il n'y a pas... Alors, la question de l'interprétation est au cœur. Et la question de l'interprétation, c'est-à-dire la question du statut du corps, de la corporalité dans l'interprétation, est au cœur de toutes les civilisations, est au cœur du grand conflit de fond entre le christianisme et le judaïsme. Ça, ce sont des choses très importantes, extrêmement très importantes pour comprendre, par exemple, pour comprendre l'avènement de l'État, pour comprendre le rôle du noyau médiéval du christianisme pontifical. Du reste, si j'ai tenu à ce qu'on ait une séquence pontificale, à la fois dans la bibliothèque vaticane et dans la séance d'acclamation du pontife romain, c'est pour des raisons de fond. Du reste, les acclamations du pontife, si vous jetez un coup d'œil sur ce magnifique ouvrage que j'ai fait traduire de Ernst Kantorowicz qui s'appelle les litanies royales, Laudes Regiae, vous voyez les mêmes choses, les mêmes structures à l'œuvre. Bon, j'ai bénéficié dans mon éducation d'historien du droit de l'appui de gens tels que Kantorowicz, avec qui j'ai pu communiquer par correspondance, avec d'autres que j'ai connus, non par lettre, mais in vivo, comme Stéphane Kuttner, qui était ce juif si érudit, qui était pendant la guerre réfugié à la bibliothèque vaticane, etc., et beaucoup d'autres. Et bon, donc, il y a là le noyau de l'Occident, mais... Malheureusement, en France, voyez-vous, il y a une doxa universitaire qui fait que les propos haineux à l'égard de la scolastique, ça c'est un chapitre en soi. Bon, et tout ce monde est censé ne pas exister.
Nous éviterons les propos haineux à l'égard de la scolastique, de même que nous éviterons demain les propos haineux à l'égard de l'État. C'était À Voix Nue, Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre, réalisation Dominique Costa. Demain, nous évoquerons justement l'état de l'État.